Zigzag.
C'est le rendez-vous sinueux de Radio Okapi. Des chemins détournés et des infos dépistées, des tendances relouquées, c'est chaque samedi de 15h à 17h sur Radio Okapi. Je suis Nana Bolodjoy Aliyomoto et je vous y attends.
Bien, nous parlons à présent des AVC, accidents vasculaires cérébrales. Vous savez, les cas des AVC sont de plus en plus fréquents. Même les jeunes gens sont victimes de ces accidents vasculaires cérébraux. D'après les spécialistes, les AVC laissent souvent des séquelles chez les victimes. En outre, l'hypertension artérielle est la cause majeure de ces accidents, c'est d'après les experts. Alors, quels sont les signes d'alerte et comment prévenir cette attaque cérébrale? Docteur Jean-Laurent Takombé, cardiologue à la clinique Galema, et notre invité, docteur, encore une fois, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par accident vasculaire cérébral?
Eh bien, je crois que les auditeurs nous ont suivis plusieurs fois. Nous avons parlé sur les différentes maladies, précisément sur ce que vous venez d'intituler la AVC, en abréviation AVC, ce accident vasculaire cérébral. Mm-hmm. Bon, je pourrais dire assez de façon pour la population que c'est un événement, ce sont des troubles neurologiques qui surviennent. Ces troubles-là peuvent être caractérisés par une paralysie, c'est-à-dire un dysfonctionnement d'une partie de l'organisme. Mais la cause provient du fait qu'il y a eu un dégât au niveau du cerveau. Le cerveau qui reçoit du sang par une tuyauterie que nous appelons des vaisseaux, des artères, alors ces tuyauteries peuvent être endommagées à la suite d'une montée des tensions ou à la suite d'un caillou qui progresse et qui va boucher le passage du sang dans une zone donnée du cerveau.
Et
voilà un peu schématiquement ce que je pourrais vous dire.
Oui, en termes beaucoup plus simples, docteur, comment ça se passe exactement?
Mais vous savez que toutes les parties de l'organisme doivent recevoir du sang, le cerveau également. Et ce sang est amené au niveau du cerveau par des tuyaux que nous appelons les artères. À la suite d'une montée de tension, de pression, ces artères peuvent se rompre et déverser son contenu en dehors de son milieu normal. Ce comme localement, vous pouvez voir dans la tuyauterie de la régie des eaux qu'il y a une fuite, donc l'eau a quitté... La lumière a quitté le milieu normal, il se retrouve déversé en dehors.
Oui.
Et cette situation peut se passer au niveau de la boîte crânienne, au niveau du cerveau, que le sang ne progresse plus dans la tuyauterie parce qu'il y a eu une forte pression et qui a rupturé une artère et comme ça le sang est déversé en dehors.
Alors à ce moment-là, est-ce qu'on peut parler d'une hémorragie interne?
Oui, bon, là nous parlons d'une hémorragie parce qu'il y a un autre phénomène qui peut arriver, qui est un caillot qui progresse dans l'artère ou dans cette tuyauterie pour aller en allant du calibre beaucoup plus large à des calibres un peu de moindre dimension.
Oui.
Et à ce moment-là, ça bouche et le sang ne peut pas aller au-delà. Pouvez-vous imaginer si vous êtes dans une avenue, la régie des eaux envoie de l'eau. Si vous regardez la tuyauterie ou le calibre, ce calibre-là est très important. Mais quand ça progresse, quand on vous sert de l'eau dans votre maison, c'est avec une tuyauterie de moindre importance. Alors, s'il y a un caillot qui progresse dans un calibre, nous prenons le diamètre de 10 mm.
Oui.
Et au niveau de votre maison, nous avons un diamètre de, je crois, de 2 mm. Donc, à ce moment-là, le caillot qui pouvait progresser dans ce diamètre de 10 000 mètres ne peut plus progresser au niveau de votre maison. Donc, vous ne pouvez pas obtenir de l'eau au niveau de votre maison parce que ça est bouché.
Mmh.
Et là, nous parlons, qu'il y a eu un AVC, il y a eu un obstacle dont la cause est ischémique. Ce n'est pas qu'il y a eu une rupture, mais ça a bouché et l'eau ne peut pas aller au-delà.
Alors, qu'est-ce qui favorise la formation de ces caillots dans les artères?
Ce qui favorise la formation de caillots dans les artères, c'est beaucoup plus les graisses. Les graisses rendent ces artères, il y a une certaine rigidité au niveau des artères, et en formant des plaques à l'intérieur. Ces plaques-là, c'est comme je reviens toujours à l'exemple de la tuyauterie, vous pouvez, après des années, vous pouvez remarquer qu'il y a une rouille à l'intérieur. Il y a des plaques de rouille à l'intérieur qui peuvent même boucher le passage d'eau. Donc, les graisses peuvent favoriser ça. Il y a également l'hypertension, elle-même comme maladie, peut favoriser, en fait, qu'il a modifié. Hein, il y a un phénomène de ce que nous appelons en médecine d'athérosclérose, hein, ça modifie la rigidité, et cela ne favorise pas assez, parce que les artères doivent être souples, élastiques, mais maintenant, avec cette rigidité, ça ne permet plus à faire passer facilement le sang. Et ces phénomènes-là peuvent favoriser également en nous amener aux AVC.
Voilà, nous avons deux auditeurs en ligne. Vous voulez également participer? Appelez-nous au 081-890-6394. Jean-Pierre Lotima nous appelle des Kpandroma, en province orientale. Et Malonga est à Bandunduville. Jean-Pierre Lotima, bonjour.
Bonjour, Jody, et bonjour notre invité. Hein.
Quelle est votre question?
Oui, j'ai seulement une petite question par rapport à ce que les étudiants viennent de nous dire. Est-ce qu'il y a une corrélation avec l'alcool par rapport à cette pathologie?
Voilà, et vous voulez savoir si l'alcool favorise la survenue des AVC?
Oui, oui.
Merci Jean-Pierre. Malonga de Mandunduville, bonjour.
Ok, bonjour monsieur, je dis Daniel Kachama.
On vous écoute.
Ok, merci beaucoup. Et je salue aussi notre invité qui vient de nous éclaircir comment est-ce que la circulation sanguine se fait. Bon, moi, je vais chercher l'éclaircissement de pouvoir bien orienter ou bien maintenir ces mouvements-là. Puisque ce que l'invité vient de dire là-bas, il compare les mouvements sanguins de mouvement de la régie des eaux. Et moi, je vois déjà comment est-ce que l'eau exerce une forte puissance dans des canaux, dans des tuyaux. C'est comme ça aussi, le sang doit exercer cette puissance dans ce tissu cellulaire ou bien dans le tuyau. Alors, je vais demander ceci. Comment est-ce qu'on parle de l'arrêt s'il n'y a pas encore ce mouvement vraiment normal du sang? Comment est-ce que ça se vient et c'est provoqué par quoi? Et comment est-ce qu'on peut garder ce mouvement normal chaque fois dans l'organisme?
Bien, merci Malonga. Docteur Jean-Laurent Takombe.
Oui, merci. Notre ami de monsieur Jean-Pierre, qui est appelé
de la province
orientale, oui. Lui veut savoir qu'est-ce que l'alcool vient faire dans dans la genèse de l'AVC.
Oui.
Bon, écoute, alcool comme tel, à des doses modérées, l'alcool ne t'amène pas à faire un AVC. Et nulle part on vous a dit que l'excès, parce que tu as pris autant de grammes d'alcool, tu vas faire un AVC. Mais c'est à travers l'abus de l'alcool que nous aurons des problèmes qui peuvent favoriser des problèmes, autres troubles métaboliques au niveau de l'organisme, qui peuvent certainement favoriser la montée des tensions, et après la tension, tu vas faire ton AVC. Mais en soi, l'alcool, en prenant, je ne sais pas, un verre de bière ou je ne sais pas, un verre de vin, tu ne vas pas faire un AVC. Ça, il ne faut pas que les gens puissent te tromper de ce côté-là. Mmh. L'alcool en soi, à des quantités modérées, ne peuvent pas nous entraîner à des problèmes cardiovasculaires. Si nous, médecins, nous insistons à ce que les gens ne puissent pas prendre l'alcool, c'est parce que l'alcool peut, quand on a abusé, nous amener à des problèmes au niveau du foie. C'est parce que l'alcool peut, quand on est en train de prendre d'autres médicaments qui ont un rapport avec le problème cardiovasculaire, l'alcool peut potentialiser l'effet du médicament ou peut neutraliser, c'est-à-dire l'effet du médicament, le médicament sera neutralisé, alors que toi tu es en train de prendre un médicament et cet effet-là tu ne le ressens pas et ça ne joue plus ce rôle parce que l'alcool neutralise l'effet. C'est ainsi que nous contre-indiquons de l'alcool pour des malades qui prennent le même toit, qui est un sujet supposé sain. On ne peut pas t'interdire de prendre un verre d'alcool.
Bien.
Plus qu'il y ait des conseillers.
Oui. Alors, par rapport à la question des Malunga, de Malunga ville qui veut comprendre le fonctionnement, qu'est-ce qui explique que le sang, il y a une forte pression, et qu'est-ce qui explique que voilà, on se retrouve devant un cas d'AVC?
Oui, mais bon, notre ami de Bandundu, il faut savoir que dans l'organisme, il y a le cœur, qui est le moteur qui pompe le sang à travers l'organisme. Mais l'hypertension dont tout le monde parle, vous aussi, c'est ce qui se passe dans la tuyauterie. Il y a une forte pression qui se passe au niveau de la tuyauterie. Hein. À l'intérieur du tuyau, il y a une force qui s'oppose à ce que le sang puisse progresser au niveau des artères. Alors, si cette pression est élevée, cette pression va rupturer les artères. Donc, tout part du moteur. Si le moteur pompe à des valeurs ou ne sait pas, dans des circonstances normales, le sang doit progresser facilement pour atteindre les différents organes, dont notamment les organes nobles comme le cerveau. Alors, mais s'il y a un obstacle qui évite à ce que le sang puisse atteindre le cerveau, nous serons amenés à arriver à des phénomènes que nous venons de parler, phénomènes d'AVC.
Voilà. Ogi Bendelo nous appelle et qui quitte. Bonjour, Ogi.
Bonjour, Jody Daniel Kachama. Je n'oublie pas de saluer notre invité, y compris tous les invités de la Radio Okapi.
On vous écoute.
Oui, j'ai des petites préoccupations. Lorsque vous aviez posé la question à l'invité de savoir si l'AVC c'est une hémorragie intérieure, il a accepté disant oui. Alors je voulais demander à notre invité, est-ce que la personne qui a connu ce cas est-il survivre? Et ma deuxième préoccupation est de savoir si ce cas peut être guéri aussi traditionnellement, car il y a chez nous ici principalement à Vicuit des tradis praticiens, parmi leurs cas traités ils évoquent aussi l'AVC. C'est ce que j'ai voulu demander, merci beaucoup.
Merci, et Panzola, vous êtes à Guémena, bonjour.
Oui, bonjour la radio. Bonjour à notre invité, tous les auditeurs de la radio.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, j'ai seulement une préoccupation. Comment j'aime bien suivre notre invité. Et ma question est celle-ci. Quels sont les symptômes d'une hémorragie interne? Et les symptômes d'une hémorragie externe?
Merci, hein, docteur Takombe.
Oui, il y a notre ami qui a parlé de AVC hémorragique. Oui, il y a l'AVC hémorragique, mais il y a aussi l'AVC ischémique. J'étais en train d'expliquer au départ, montrer comment il y a une rupture, que le sang se retrouvait en dehors. Mais j'ai également abordé dans le sens de dire qu'un caillot peut progresser et venir boucher. C'est ce que nous appelons AVC ischémique. Alors, peut-on guérir? Je dois vous dire que quand on a fait un AVC, c'est vraiment une déception pour le médecin ou le personnel soignant, parce qu'il n'a pas réussi. L'AVC, c'est une complication que nous devions prévenir.
Et docteur, alors quelles sont les manifestations d'un AVC?
Les manifestations d'AVC. Bon, au niveau du cerveau, c'est un organe où il y a chaque zone joue un rôle bien déterminé. Il y a une zone qui s'occupe, par exemple, du mouvement. Il y a une zone qui s'occupe du langage et ainsi de suite. Donc, chaque zone précise a une fonction bien déterminée. Donc, s'il y a des dégâts quelque part en rapport avec une zone donnée, alors on va voir découler. Donc, les signes, ce que pouvez-vous retrouver, ce que une partie de votre organisme ne fonctionne pas. Soit que vous ne parlez pas, soit que vous voyez que vous avez une déviation de votre visage, notamment les lèvres qui sont d'un côté, une paralysie faciale. Soit que vous voyez qu'il y a un membre, le membre supérieur comme le membre inférieur ne bouge pas. Et il y a plusieurs phénomènes qui peuvent se suivre, et cela c'est suivant les dégâts de l'AVC. Parce que pouvez avoir comme complication, donc quand vous faites un AVC et directement ça vous amène à la mort parce que l'hémorragie ou parce que les dégâts ont été considérables au niveau du cerveau. Mmh. Donc, ça dépend, cette fonction de l'étendue du dégât au niveau du cerveau. Mais les signes sont, c'est qu'une partie de l'organisme ne va pas fonctionner correctement le mouvement, la motricité, la sensibilité, quelquefois vous ne sentez pas, on vous touche, vous ne sentez pas, quelquefois vous ne savez pas parler. Tout ça, ce sont des signes de l'AVC quand l'AVC est installé.
Alors docteur, généralement, les personnes qui survivent s'en sortent toujours avec des séquelles.
Oui, aujourd'hui, il n'y a pas un médecin. Ici chez nous, comme en Europe, en Inde, ou je ne sais pas, en Afrique du Sud, qui va guérir l'AVC. Il n'y en a pas. Donc les gens ne se trompent pas. Personne ne peut vous garantir que moi je vous prends parce que vous avez fait un AVC et je vais vous guérir. Non, les dégâts, les pathologies ou les maladies qui proviennent du cerveau, et je dois vous dire entre parenthèses, s'il y a un domaine où la médecine n'a pas fait encore un bond en avant, c'est le domaine qui concerne le cerveau. Donc une fois que la cellule nerveuse, la cellule du cerveau est endommagée ou est tuée, la régénération, c'est-à-dire pour qu'elle récupère, à l'époque on nous apprenait que c'était, elle est morte définitivement. Ce n'est qu'après qu'on a vu qu'elle pouvait régénérer, mais de façon lente. Donc ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps avant de reprendre. Et même quand ça reprend, vous n'êtes pas sûr d'atteindre le niveau qu'on avait avant la maladie.
Et Ogi veut savoir si les tradis praticiens peuvent guérir l'AVC, parce que d'après lui, à Kikwit, il y a bon nombre de tradis praticiens qui vantent leur capacité de prendre en charge de traiter cette maladie.
Alors moi, j'ai beaucoup de respect à nos ancêtres ou à ceux qui soignent de façon traditionnelle. S'ils ont trouvé une solution, bon, ils n'ont qu'à venir vers nous et nous aider parce que ça va contribuer. Mais à ma connaissance, c'est que moi j'ai eu en médecine moderne, moi je ne vois pas comment on peut guérir ça. Mais si, bon, si le tradit praticien lui est capable de résoudre ce problème, tant mieux. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas, je ne peux pas, moi, commencer à avaler des histoires comme ça sans pouvoir mâcher. Je ne crois pas. Mais s'il a des... Mais il faut savoir également qu'il y a des phénomènes qui peuvent se passer, même ici en ville, que quelqu'un ait fait un AVC et qu'il puisse se récupérer totalement, totalement. Il y aura peut-être un peu de petits dégâts qui peuvent rester, mais il récupère totalement. Je ne dirais pas que moi je l'ai guéri totalement. Non, c'est pas possible. Même de façon spontanée, il y a des gens qui ont la chance parce qu'il y a eu une obstruction et les choses n'ont pas tellement traîné, le sang a commencé à passer ou je ne sais pas, le caillou qui était là a laissé la place pour que l'irrigation se fasse et que la personne le récupère. Je ne dirais pas que non, moi j'ai guéri totalement ce malade. Donc oui, de façon spontanée, quelqu'un peut guérir de son AVC.
Bien. Et Pandola de Gemena a posé la question de savoir quels sont les symptômes d'une hémorragie interne et externe. Vous allez répondre tout à l'heure. Le temps d'accueillir Madame Marie Bernard Moussaou qui nous appelle depuis Siro. Madame Marie, bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour à l'invité.
Vous êtes à Isiro, en province orientale.
Je voulais demander à notre invité, est-ce que les événements de la vie ou les chocs peuvent aussi amener quelqu'un à faire un AVC? Merci.
Oui, merci. Docteur Laurent Takombe.
Oui, notre ami de Nguemeda qui veut savoir les symptômes de l'hémorragie interne ou l'hémorragie externe. Écoute, le sang, quand quelqu'un a fait son AVC, ça se passe à l'intérieur, dans la boîte crânienne. Dans la boîte crânienne, c'est qu'il a quitté son lit, il se retrouve en dehors. Et tu fais un AVC, donc je ne vois pas. Quelqu'un qui fait un AVC, tu ne vas pas voir le sang couler sur sa tête. Hein. Donc tout se passe à l'intérieur. Donc il n'y a pas une hémorragie externe là-bas. L'hémorragie est interne, c'est dans la boîte crânienne et il quitte le lit vasculaire pour le sang... quitte le lit vasculaire pour se retrouver. Le problème qui est là, c'est que la boîte crânienne ne peut pas changer, n'est pas extensible pour que quand le sang quitte son milieu, que parce qu'il y a quelque chose, je pourrais dire un corps étranger, et ainsi ça peut se distendre. Non, le sang qui va quitter son milieu va comprimer d'autres parties du cerveau qui, du moins jusque-là, étaient intactes et on aura... Et c'est pour cela que nous avons très souvent les cas qui décèdent rapidement. Ce sont des cas qui font des AVC hémorragiques parce que ça entraîne une altération, même ça va même atteindre le centre respiratoire et ainsi de suite. Donc on peut perdre le malade rapidement. Mais ici, se dit une hémorragie externe. Cette hémorragie n'apparaît pas. Tu ne verras pas quelqu'un qui a fait une hémorragie, voir sur sa tête le sang en train de couler. Donc, je ne peux pas m'imaginer ce que, peut-être je comprends mal ce que mon, l'auditeur de Guimbera est en train de poser comme question. Mais par contre, ce que madame d'ici revient de demander, s'il y avait des événements de la vie qui peuvent nous amener à faire un AVC.
Oui, un choc. Hein. C'est la question de madame Marie.
Oui, bon, il faut l'avouer, madame, qu'en médecine et précisément en cardiologie, nous avons ce que nous appelons les facteurs de risque, les facteurs de risque cardiovasculaires. Qu'est-ce qui peut vous amener à faire des maladies cardiovasculaires? Parmi ces facteurs-là, nous avons catégorisé, il y a des facteurs que nous disons non modifiables et des facteurs qui sont modifiables. Les facteurs non modifiables, c'est-à-dire quelqu'un qui vient des parents ou dans une famille où on fait des maladies cardiovasculaires, il a un peu plus de chances de faire des maladies cardiovasculaires, mais ça, le médecin ne peut pas changer. On ne peut pas modifier ce facteur-là.
Oui.
Il y a également l'âge. Les sujets beaucoup plus âgés font des maladies cardiovasculaires par rapport aux sujets jeunes. Mais ça, même si vous allez voir votre médecin, il ne pourra pas changer ça. Par contre, il y a des facteurs que nous disons modifiables. Et les modifiables, là, c'est toutes ces maladies-là, diabète, hypertension, cholestérol, tout ça, et le stress. Le stress, cet état où vous vous retrouvez suite à une émotion ou quelque chose comme ça, ce stress-là, ce sont des événements qui peuvent vous amener à faire un problème de montée des tensions et peut-être pouvez arriver jusqu'à faire un AVC.
Alors, docteur, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les conditions des vies, la crise, tout ça, c'est ce qui favorise de plus en plus des cas des AVC dans la société?
Bon, c'est vrai que ça contribue. Moi, j'ai toujours répété aux gens que ça fait plusieurs années que je fais ma médecine. J'ai remarqué de plus en plus le nombre de cas d'AVC que nous avons. Je parle de mon hôpital, la clinique Galema, où je suis depuis plus de 15 ans maintenant.
Oui.
Je trouve qu'il y a de plus en plus, à chaque jour, quand il y a des malades hospitalisés, s'il y a 10 cas qui ont été hospitalisés, sur les 10 cas, j'ai au moins 4 ou 5 cas de malades qui sont hospitalisés pour des AVC, et pas seulement qui sont hospitalisés, mais les jeunes se retrouvent ou prennent part dans ces cas-là des malades AVC,
les
chose
jeunes...
qu'on ne voyait pas dans le passé. Donc, nous sommes en train d'étudier avec des collègues de la ville de Kinshasa pour savoir les facteurs qui ont favorisé ça, ce sont les facteurs difficiles de stress, de conditions de vie. Bon, on tirera des conclusions dans les... Mais je sais que le stress intense pour Madame Dissiro, les événements qui peuvent vous troubler dans la vie de tous les jours peuvent contribuer à vous amener à des maladies cardiovasculaires et à faire un AVC si vous ne prenez pas les dispositions à temps de voir vos médecins.
Alors, docteur Laurent Takombe, comment prévenir un AVC?
Ah, ça c'est vraiment la meilleure question. Comment prévenir l'AVC? Il faut savoir que c'est le meilleur traitement d'ailleurs, parce que c'est dans les AVC, c'est le meilleur traitement, c'est de chercher les causes qui peuvent nous amener à l'AVC. J'ai cité un certain nombre de causes. Dans le milieu qui est le nôtre, l'hypertension se retrouve être la maladie redoutable qui nous amène à l'AVC. Donc, je conseillerais aux gens d'avoir l'habitude de faire prendre la tension artérielle. Vous pouvez aller dans le dispensaire du coin, on vous prend la tension artérielle, vous pouvez le faire très souvent. Parce qu'une montée de tension, il y a des gens qui, quand ils ont la tension élevée, ils ont des symptômes, ils peuvent avoir des vertiges, des maux de tête, des palpitations. Mais par contre, il y a d'autres qui n'ont pas de symptômes. Ils sont là, des malades qui vous arrivent seulement quand il y a une complication, il y a un AVC ou il y a une insuffisance cardiaque. Donc la meilleure façon, c'est de faire prendre la tension artérielle assez régulièrement, et comme ça on saura si on est hypertendu ou pas. Et surtout chez les malades qui viennent, qui ont autour d'eux, ou des membres de famille qui ont des problèmes cardiovasculaires, à ces gens-là, j'attire leur attention qu'ils doivent être beaucoup plus vigilants, ils doivent aller au dispensaire. Ça, c'est un. De deux, il y a d'autres facteurs de risque. Par exemple, le sédentarisme. Ça, il faudra éviter. Nous conseillons aux gens de faire des exercices physiques assez régulièrement. Nous demandons à ceux qui fument de cesser de fumer et nous demandons à ceux qui sont passés ou qui ont eu à faire un petit bilan, on trouve que les graisses sont élevées, il faut diminuer ces graisses-là. Donc, le meilleur traitement des AVC, c'est de prévenir les AVC. Il n'y a pas de miracle à chercher à aller en Inde ou, je ne sais pas, en Afrique du Sud. Prévenons les AVC. Donc, essayons de voir ce que nous pouvons faire au niveau, peut-être, de la famille. Éduquer les enfants dès le jeune âge qui mangent moins salé, moins sucré, moins gras. Au niveau de la famille, au niveau de la population, il faut qu'on cherche, qu'on puisse régulièrement, et moi je demande même, et je dis merci à Radio Okapi, de pouvoir continuer à éduquer la population, parce que l'éducation trouve sa part. Donc si nous ne réveillons pas l'attention des gens pour dire, écoute, faites ceci, vous ne devez pas manger ceci, vous ne devez pas fumer, vous devez éviter d'être obèse, vous devez... Ce que nous n'avons pas, nous n'allons pas réussir. Ça ne sert à rien de courir dans des hôpitaux quand la complication est là, parce que ça va coûter énormément cher et c'est pour la société également.
Bien, docteur, on va terminer avec la question d'Arsène Odolungele qui nous appelle de Bukavu. Arsène, bonjour.
Oui, bonjour. Je remercie notre invité parce que je l'avais suivi encore. Lorsque j'étais au Burundi, c'était 8h, à l'invité du jour, monsieur l'invité. Mais je me pose une question. Est-ce que quelque part, ce n'est pas une façon de paniquer aux gens quand ils disent que la maladie ne se guérit pas, bon, on ne voit pas les traduits pratiqués. Bon, je me pose cette question. Mais quelque part, je me demande aussi, bon, la cause de cette maladie est liée à quoi? Souvent, bon, parce que je suis licencié en santé publique et nous faisons bon, trop de descentes sur le terrain. Bon, il y a les gens, leurs parents, ils sont dans de telles manières, ils ont des AVC, mais ils mettent au monde les enfants qui ne sont pas focalisés de la même manière. Au moment où, lorsqu'il était invité du jour le matin, avant qu'il avait dit que souvent, ça se focalise aussi sur base de l'hérédité. Donc, je me pose cette question, il fallait qu'il m'éclaircisse les auditeurs convenablement. C'était ça mon avis.
Merci Arsène. Docteur Laurent, il pose sa question par rapport à l'hérédité. Il dit qu'il y a certains parents qui souffrent de l'AVC, mais les enfants plus tard ne vont pas souffrir de cette maladie.
Non. Je crois que l'auditeur doit bien, s'il m'a bien suivi, je dis ceci. Ceux qui viennent des familles, ceux qui ont eu des parents, ont beaucoup de chances de faire de reprendre les maladies. Ce sont des facteurs de risque. Quand vous arrivez devant le médecin, il va demander, papa souffre de quoi, maman, que... parce que vous, vous avez un peu plus de chance de faire des maladies cardiovasculaires par rapport à l'autre. Alors, donc, je dois réveiller cette attention. Celui-là, il doit être beaucoup plus attentif que l'autre dont les parents n'ont pas souffert des maladies cardiovasculaires. Et la meilleure façon aussi, ça ne sert à rien de ne pas dire la vérité aux malades. Quand on vous dit aujourd'hui que non, l'AVC, il n'y a pas un traitement miracle pour l'AVC. Mmh. Ça, c'est vrai, il faut qu'on vous le dise. Que le traitement n'est pas là, le traitement miracle n'est pas là. Il n'y a aucun médecin à travers le monde qui va vous guérir de l'AVC. Hein, faisons attention. Hein, il ne faut pas que les gens disent qu'ils courent rapidement pour aller là, pour prendre son avion, aller en Inde ou je ne sais pas. On ne va pas résoudre ce problème. Donc, le médecin a l'obligation de passer la vérité au malade. Messieurs, ce n'est pas pour décourager les gens, mais j'insiste là pour réveiller l'attention des gens. Attention, écoutez, prenons des dispositions pour ne pas en faire. C'est le meilleur traitement.
Le meilleur traitement, c'est la prévention.
Voilà.
Docteur Jean-Laurent Takombe, cardiologue à la clinique Galima, je vous remercie.
Merci.
Au capé.